Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Juste avant de commencer le podcast tout le monde, j'aimerais commencer en vous disant un gros merci à tous ceux qui se sont présentés à mon spectacle, à mon rodage qui était à Montréal et l'autre à Terrebonne, ça a été vraiment une esti de belle soirée. Tous ceux qui sont venus, on a pu rire, on a pu avoir du fun. Bref, ça, moi, ça m'a fait énormément du bien. Les mots que j'ai dit à la fin du show pour ceux qui étaient là, j'y pensais vraiment, ok? Fait que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait du bien. Fait que bref, le prochain spectacle, ça va être le 20 mai, si je me trompe pas. Et il va aussi avoir Lévi qui va être après et Longueuil. Fait que si vous voulez des billets, allez au jerralain.com. Jer de R, Alain 2L. Fait qu'un gros merci tout le monde. Et cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Michel Junot Katsuya, qui est l'ancien directeur du bureau Asie-Pacifique. Au SCRS, qui est le Service canadien de renseignement et de sécurité. Bref, ça a été vraiment, encore une fois, gros podcast. Ça faisait la deuxième fois qu'il venait sur le podcast. On a parlé, entre autres, des postes de police clandestins chinois. Fait qu'on a parlé de ça. On a parlé aussi de toute l'ingérence chinoise dans les élections au fédéral. On a parlé de ça. On a parlé de la Chine qui tente d'avoir de devenir le nouvel ordre mondial, la nouvelle puissance. Puis, fait que bref, on a parlé beaucoup de ça. Ça a été vraiment beaucoup très intéressant. En plus d'autres sujets comme l'attentat de Air India, puis le dossier de Jeffrey DeLille, qui est dans le fond un ancien lieutenant de la marine canadienne qui a reviré sa veste pour aller devenir espion pour le compte de Moscou. Fait que bref, on a parlé de plein de sujets de même qui étaient super intéressants. Gros merci encore une fois à Michel Junot Katsuya. Puis juste avant que vous écoutez le podcast, tout le monde, j'aimerais encore vous dire, vous recommander, abonnez-vous au Patreon. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça fait vraiment toute la différence. Hein? C'est au patreon.com/whatsappodcast. C'est des forfaits pour tout le monde. Il y en a à 3-4 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Et ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. En ce moment, il y en a un avec Félix Séguin, Sylvain Marcel, Fabien Cloutier, j'en enregistre un autre avec Benjamin Tremblay qui revient pour une quatrième fois et, et demain avec François Léveillé. Fait que bref, ça vous permet tout de voir les podcasts, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Sinon, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, Denis Roy, Geneviève Aide, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaro, Riel de Bellefeuille, Sébastien Boulanger, Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci tout le monde. Abonnez-vous. Sinon, je vous encourage tout le monde à vous abonner à mon compte YouTube. Hein? Abonnez-vous, cliquez sur le thumbs up, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Si vous avez aimé le podcast puis vous l'avez écouté jusqu'à la fin, vous avez aimé ça, écrivez espion dans les commentaires. Écrivez ça. Et ou sinon, bref, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Fait qu'un gros merci. Passez une excellente semaine, tout le monde. Je vous adore et on se reparle la semaine prochaine. Et ciao! Yes, ben what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Encore une fois, je suis super content de le recevoir à nouveau. Si vous ne vous souvenez pas de lui, allez écouter le premier podcast que j'avais fait avec. C'est Michel Junot Katsuya, ancien cadre supérieur au RCARS et ancien chef du côté Asie-Pacifique. Oui. Fait que un gros merci encore une fois d'être venu sur le podcast.
L'honneur est pour moi.
Tu disais que tu avais beaucoup aimé la première fois que tu étais venu
sur le podcast. Oui, on a eu du plaisir. On a parlé de choses très intéressantes et énormément de retours très, très positifs de collègues du milieu qui était heureux d'avoir entendu notre échange. Alors, je me suis dit, c'est parfait, ça, c'est une belle plateforme.
Ben, tout l'honneur est pour moi. Puis, juste avant, c'est ça qu'on enregistre, je te posais la question, est-ce que des fois, tes anciens patrons, tu sais, est-ce que des fois, ils n'aiment pas trop qu'est-ce que tu dis ou comment qu'ils voient ça?
Ben, écoute, s'ils sont pas contents, ils me l'ont pas dit.
Ouais.
Et ils ont certainement pas pris de mesures officielles contre moi, donc je n'ai pas entendu parler.
OK, OK.
Faut dire que la plupart du temps, j'ai rien à régler avec eux autres.
Moi, tu leur dois plus rien.
Non, je leur dois plus rien du tout, du tout. Je suis un citoyen canadien et je vois à notre société canadienne qui était mon serment à l'État, mon serment là, au pays dès le départ. Parce que ça me fait penser un peu à ce que l'on vit à l'heure actuelle avec les fuites qui sont arrivées dans les journaux et le lanceur d'alerte, le whistleblower, le lanceur d'alerte a écrit une lettre qui est parue dans le Globe and Mail qui dit « Je ne l'ai pas faite pour des raisons partisanes. Je l'ai fait parce que mon serment d'office est avec le pays, est avec les citoyens, les citoyennes canadiennes. »
Ça, c'est qui a fait ce lanceur d'alerte-là? C'est qui a fait ça?
Ben, on sait pas c'est qui, parce que c'est ça le concept d'un lanceur d'alerte, c'est qu'il reste secret souvent. Là.
Okay.
Et lui, il est à l'intérieur du SCRS, c'est la première fois qu'on a une fuite si importante de documents au SCRS, et qui a révélé l'ampleur de l'ingérence chinoise Canada.
Oui, c'est ça, tout ce dossier-là. Fait que c'est de là que ça part.
Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé ou ce que j'ai retenu principalement, c'était, comme il le disait, il dit, écoutez, moi là, mon serment, il est au pays. Mon boss, là, c'est les citoyens canadiens, canadiennes. Ouais. C'est pas le gouvernement. Parce que de toute évidence, comme on l'a vu, depuis 30 ans, on le sait que l'ingérence étrangère de la part de la Chine, on l'a avisé, j'étais même le premier à le faire, avec des preuves à l'appui, puis ils n'ont rien fait. Alors, le gouvernement ne fait pas partie de la solution, il fait partie du problème.
Ouais.
Et c'est ça à quoi on doit s'attarder à l'heure actuelle. Mmh. Et lui, probablement souffrant d'une écœurantite aiguë de voir tous ces avertissements-là qui sont tombés dans les oreilles des sourds, ben, ils ont dit, regarde, moi, je vais prendre les moyens. Alors, à quelque part, s'il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est un zéro ou un héros, ce gars-là, moi, je pense qu'on devrait lui donner l'ordre du Canada parce que il nous rend un fier service. Un fier service qui n'aura jamais arrêté. Parce que depuis 30 ans, on a constamment avisé les gouvernements, puis ils s'en sont soit servis ou ont fait la sourde oreille.
Alors, c'est ça, parce que la dernière fois que tu étais venu sur le podcast, tu en parlais, tu sais, qu'il y en avait de l'ingérence étrangère puis venant de la Chine, tu sais.
En particulier.
Puis là, c'est quoi que ça a révélé de plus? Y avait-tu des affaires qu'on savait pas que...
Ah oui, là, on a d'autres faits beaucoup plus concrets. À titre d'exemple, aux élections de 2019, on a appris que 11 candidats et 13 employés de circonscription avaient été soudoyés pour représenter clandestinement les intérêts de la Chine. On a appris, selon les allégations, qui n'ont pas été prouvées en cours, mais il y a des allégations, que le député Hang Dong, qui est un député qui a été élu libéral, aurait rencontré le consul général de Toronto en lui disant, durant l'affaire des deux Michael qui ont été emprisonnés en Chine, gardez-les un petit peu plus longtemps en prison. Ça nous servirait à nous autres. On veut pas que ça serve aux conservateurs.
Fait que là, c'est comme s'il donne des informations sur comment qu'il gère la crise à l'intérieur du Canada.
Oui, exactement, puis qui influence. Puis, on a su que, justement, pour l'élection de Hang Dong à la candidature libérale de sa circonscription, ben qu'apparemment, le consul général aurait fait venir deux autobus pleins d'étudiants étrangers chinois pour voter pour lui. Ben, il y a une tonne de contradictions, il y a une tonne de choses illégales ou inapproprié là.
Comment ils peuvent voter?
Ben oui, ce sont des étrangers.
C'est ça, c'est pas des citoyens.
Parce que les règlements n'interdisent pas que des étrangers travaillent ou soient volontaires pour une investiture. Oui, mais t'as une minute, là. C'est des étrangers.
Ouais.
Alors, on vient de piper les dés là, dans cette région-là. Puis l'idée, c'est pas de prendre le contrôle. C'est pas l'idée de la Chine de prendre le contrôle du gouvernement canadien. L'idée, c'est de l'influencer, avoir des pions à la bonne place, qui vont être capables de jouer ou d'influencer
à leur faveur
de la Chine le pouvoir, soufflant dans l'oreille plus que nous autres.
Puis là, c'est ça, ils ont trouvé des... Ils appellent des postes de police chinoises.
Oui, des postes de police clandestins.
Oui, chinois aussi.
Ça fait partie de cette vaste opération déclenchée par les services de renseignement chinois qui est d'une amplitude extraordinaire. Vraiment, là, honnêtement, c'est l'opposant ou le compétiteur le plus phénoménal que l'on a, auquel on est confronté au Canada, ou peut-être même l'ensemble de la planète. Pour deux raisons. Un, ils ont beaucoup de monde. Alors ça, c'est une vieille stratégie utilisée longtemps par les Chinois. Ils flottent la place, ils mettent tout plein de monde, tout partout, puis ils ont tout plein d'opérations qui sont lancées à gauche ou à droite.
Plein d'influence.
Voilà. Et l'autre élément... Non, mais c'est la quantité aussi.
Ouais,
c'est la quantité énorme. L'autre élément, ben, ils ont la pérennité. On a peut-être la montre, mais eux autres, ils ont le temps.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas à retourner aux élections. Le gouvernement communiste chinois, il reste en poste, puis il va rester en poste pour des décennies encore à venir. Alors, ils ont le temps de planter quelque chose aujourd'hui qui va récolter dans 5, dans 10, dans 15 ans. Ils n'ont pas de problème avec ça, eux autres-là. Alors que nous autres, on retourne aux élections à toutes les 4-5 ans, et puis le vent va changer de bord, puis là, il va y avoir de nouvelles priorités. Fait que c'est pas la même chose du tout, puis on se bat pas nécessairement à armes égales. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, vraiment s'attaquer comme il faut à cette question d'ingérence. Et malheureusement, moi, je ne crois pas qu'une commission d'enquête publique va être appropriée, parce que on va déjà avoir appris des choses. Puis on va révéler des choses trop grandes. Je te donne un exemple. Il y a une nouvelle qui est sortie par Global News, comme quoi Heng Dong aurait rencontré le consul général puis aurait demandé de garder plus longtemps les deux Michael en prison.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu penses que je viens de te dire? Qu'est-ce que cette nouvelle-là révèle?
Ben qu'il y a une influence.
Ouais, ça c'est à premier niveau.
Mm-hmm.
À deuxième niveau, qui rapporte l'information? Y a-t-il une source humaine une source technique? Dans un cas comme dans l'autre, on vient de révéler une technique d'enquête. On a peut-être brûlé une source humaine qu'on avait. Mm. On s'est fait brûler nous autres-mêmes. C'est ça auquel il va falloir faire très, très attention.
Il y a du contre-espionnage, genre.
Ben là, les
vu
Chinois,
que cette information-là, si j'essaie de s'en servir.
Ben oui, si moi je suis Chinois puis je dois protéger nos opérations, la première question que je vais poser, OK, qui a stoulé, là?
Mm-hmm.
Comment ils ont su le contenu de cette conversation-là? C'est pour ça que je dis, faut faire attention. Une enquête publique, si on est obligé de trop révéler, on va révéler en même temps nos manières d'opérer, puis on se tire dans le pied, on sera plus capable de pouvoir voir comment neutraliser ces gens-là. Non, c'est malheureusement une mauvaise approche. Et en plus, dans le climat politique actuel, je suis certain que les partis politiques de l'opposition vont vouloir se concentrer sur qu'est-ce que le gouvernement Trudeau a mal fait. Parce qu'il a mal fait.
Ouais.
Mais il n'est pas le seul à l'avoir mal fait. Ça fait 30 ans, un après l'autre, qu'il a fait tout. Depuis Mulroney jusqu'à maintenant, tous les premiers ministres ont été compromis. Tous les gouvernements ont eu de l'ingérence avec des agents étrangers. Ils ont tous fait les mêmes erreurs, ils ont tous eu les mêmes tentations.
Puis la sourde oreille.
Puis, tu sais, il y a un dicton arabe qui lorsque je travaillais au Proche-Orient, il y a un dicton arabe qui est connu qui dit « Quand le sage pointe à la lune, l'idiot regarde son doigt. » Mais là, on va juste regarder le doigt, là. On ne regardera pas la lune. Le problème, c'est que notre système démocratique est sévèrement attaqué. Puis il n'y a pas juste la Chine là, qui fait ça. Il y en a d'autres pays aussi. Et là, on ne va pas s'attaquer à ça. On va s'attaquer à Trudeau. Quand est-ce qu'il l'a su? Puis qu'est-ce qu'il a fait?
Ah oui,
et ça, c'est une tendance partisane et électoraliste. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la sécurité nationale. Là, il faut vraiment mettre la partisanerie de côté et s'attaquer de manière sérieuse, collectivement, à protéger notre pays.
Ça serait quoi qui serait à faire?
Ben là, selon moi, il faudrait avoir un bureau d'enquête indépendant, totalement détaché de la GRC, totalement détaché du SCRS, totalement détaché du ministère de la Sécurité publique, contrairement à ce qui a été annoncé hier. Un bureau d'enquêteurs, un peu comme on a avec le vérificateur général, nommé par la Chambre des communes et qui se rapporte à la Chambre des communes. Mais avec la capacité d'enquêter, de perquisitionner, d'arrêter et de poursuivre si nécessaire. Mm-hmm. Ça serait l'important.
Tu trouves-tu que, justement, des fois, le gouvernement, il est trop complaisant envers, je sais pas, tu sais, comme des étudiants étrangers ou...
Complaisant, c'est... oui, ben, les étudiants étrangers, c'est un phénomène, un problème, effectivement. Complaisant, encore faut-il être capable d'enquêter comme il faut ou d'accumuler des preuves. On a quand même un système légal dans lequel il doit fonctionner. La question est à savoir, est-ce que notre système légal ou notre cadre législatif est approprié? Et la réponse est non. Alors, on a des problèmes justement à cause, parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, il y a quatre formes d'ingérence étrangère. Tu as l'ingérence étrangère à caractère politique, tu as l'ingérence étrangère à caractère industriel, pratiquement du vol de propriété intellectuelle, tu as de l'ingérence étrangère à caractère académique, puis tu as de l'ingérence étrangère où on va intimider les communautés. Alors, c'est quatre formes d'ingérence étrangère qui opèrent différemment, qui est faite par des gens différents. Il faut regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Et on a, je l'avais dit la dernière fois, on est naïf sur le bord d'être stupide au Canada, mais c'est parce que personne ne nous en a jamais parlé. Le gouvernement, toute couleur confondue, n'ont jamais parlé des problèmes de sécurité nationale. Alors, speak no evil, see no evil. On ne parle pas du diable, on ne le voit pas le diable et on n'est pas sensibilisé à ça. À partir du moment qu'on est un peu plus réveillé, ben là, on est capable de pouvoir faire beaucoup plus attention, voire même peut-être sévir contre ceux qui font ce type de choses qui sont très nuisibles contre nous autres. C'est pas de la petite bière. C'est vraiment pas de la petite bière. Je te donne un exemple. Sous le gouvernement de M. Harper, les agents d'influence chinois que l'on connaît ont réussi à influencer M. Harper à accepter l'achat par le gouvernement chinois d'une compagnie de pétrole en Alberta pour 15 milliards de dollars. On n'est même pas capable d'acheter un dépanneur du coin en Chine, nous autres. Comment ça se fait qu'il y a cette iniquité-là? Parce qu'il faut pas qu'on faut comprendre une affaire. Une compagnie qui vaut 15 milliards de dollars, qui engage peut-être quelques milliers de personnes en Alberta.
Va avoir de l'influence.
Ben, tu dis. Mais toi puis moi, on est Canadiens. On veut parler, admettons, au premier ministre ou la première ministre de l'Alberta. Tu vas être placé sur hold puis tu vas être attendu longtemps, là. Alors qu'eux autres, s'ils demandent une audience, ils vont l'avoir probablement dans les 5 jours ouvrables qui suivent, là. Parce qu'ils ont cette importance, cette influence. Et c'est ça que Harper leur a donné. Il a littéralement amené le loup dans la bergerie.
Puis là, c'est ça aussi qu'il disait avec les postes de police, c'est que à clandestin, c'est qu'il y en avait un à Montréal, mais aussi un à Brassard.
Oui.
Parce que c'est justement là qu'il y avait une forte communauté.
Oui, oui. À l'extérieur du Chinatown de Montréal, la deuxième plus grosse communauté au Québec d'origine asiatique, chinoise, est à Brassard, effectivement.
Puis là, c'est ça, il y avait de l'influence sur la politique municipale, je pense qu'il
disait.
Oui,
parce que la propriétaire des deux endroits où on donnait pignon sur rue, les allégations sont, elle a été recrutée par les services de renseignement chinois et elle est aujourd'hui conseillère à la ville de Brossard. Et d'ailleurs, le Journal de Montréal a fait une bonne job là-dessus. Ils ont retracé des annonces faites sur l'Instagram en chinois qui disaient « voter pour lui comme maire puis elle comme candidate ». Bon, lui n'est pas rentré, mais elle est comme conseillère. Elle est rentrée comme conseillère.
Oh, ouais.
Alors, on pouvait voir que déjà, on influençait la communauté. Puis cette influence, ben, elle joue sur deux plans. Elle joue sur les diriger un peu, comme on vient de l'expliquer, les destinées peut-être de la communauté. Mais c'est aussi d'intimider. On fait peur. On veut intimider la dissidence, on veut intimider les gens qui sont pas d'accord avec le gouvernement de Pékin. Et ça, du bullying, de même, c'est fait à grandeur du Canada dans toutes les communautés chinoises. Mais il n'y a pas qu'eux autres. L'Iran fait exactement la même affaire, la Russie fait exactement la même affaire, l'Arabie Saoudite fait la même affaire. On a même appris que le Rwanda le faisait. Donc, ce ne sont que des exemples pour démontrer qu'il y a beaucoup de pays qui le font. Puis on a vraiment besoin de mieux s'équiper. D'ailleurs, à cet effet, l'Australie, en 2017-2018, ont adopté une loi sur l'ingérence étrangère parce qu'ils vivaient exactement la même chose que nous autres. Alors, on pourrait s'inspirer un peu de ce qu'ils ont vécu, eux, pour peut-être nous autres mieux se préparer à faire face à cette ingérence.
Moi, j'ai 3 questions en ce moment.
Shoot.
La première, c'est pourquoi qu'on n'en entend pas parler, par exemple, tu sais, de, des autres pays que tu as dit? Pourquoi on en entend moins parler?
Ben, parce que le gouvernement ne veut pas en parler. Ouais, c'est ça. Interdit au SCRS, au Service canadien de renseignement de sécurité, d'en parler. Et honnêtement, on n'est pas équipé pour l'enquêter comme du monde. Alors, même quand les gens des communautés iraniennes ou russes ou quelqu'un d'autre va venir se plaindre comme quoi ils sont victimes d'intimidation de la part de conseillers diplomatiques ou quelque chose de ce genre-là, on n'a pas rien au niveau de la loi canadienne. Le code criminel est mal équipé. Et on n'est pas capable de faire, de prendre des mesures contre ces gens-là, parce qu'il n'y a pas que des diplomates. Au moins, avec les diplomates, quand on attrape quelque chose qui fait, qui va à l'encontre de leur mandat ou de leur responsabilité, on peut toujours les chasser. Parce que c'est un privilège qu'on accepte qu'ils viennent comme diplomates ici. Mais c'est un privilège qui peut être retiré. Mm-hmm. Alors, on peut leur demander de retourner, ce qu'on appelle des persona non grata, qui est le terme. Mais, ils recrutent aussi des gens dans la communauté. Et là, quand je te parle d'intimidation, là, c'est des gens qui vont prendre le temps d'aller prendre des photos de chez vous, qui photographient ta maison, qui donnent ton adresse, ton nom, là où tu travailles. Ils vont prendre des photos de tes enfants qui vont à l'école, qui vont te prendre des photos de gens qui sont en train de magasiner, quelque chose de ce genre-là, qui donnent des descriptions pour intimider et peut-être qu'avoir des gens plus nationalistes ou plus fervents qui pourraient aller les attaquer ou leur faire du tort. En plus de partir des campagnes de salissage, des campagnes diffamatoires contre les gens sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est inacceptable et c'est inapproprié et c'est totalement répréhensible.
Ben ouais, puis en plus, ils menacent leur famille en Chine.
En plus, c'est effectivement.
Ils mettent la pression de main.
Voilà. Alors, c'est vraiment pour faire taire l'opposition, pour que la Chine puisse contrôler le message. En ayant des gens infiltrés dans le gouvernement, ils dirigent les politiques en faveur de la Chine, alors que nous autres, on n'a que dalle en retour. Mm-hmm. Alors, on se fait baiser, puis on n'a pas le plaisir qui vient avec.
Oui, c'est ça. Ah ben c'est ça, ça faisait partie justement d'une de mes questions, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils avaient à gagner eux autres de faire ça.
Beaucoup, beaucoup, ils ont beaucoup, beaucoup à gagner. Quand je te donnais l'exemple tout à l'heure, ils ont acquis une compagnie pétrolière, ils ont besoin de beaucoup de pétrole, ils manquent de ressources naturelles pour l'énergie en Chine. Ils viennent de se trouver un approvisionnement maintenant en pétrole direct, c'est sûr que cette compagnie-là ne vend qu'à la Chine. Ne vend qu'à la Chine, puis la Chine va le prendre au prix qu'ils veulent. Eux autres, ils vont juste garder la machine fonctionner, et là, en prenant les profits, en prenant la propriété intellectuelle, etc. Ils font taire la critique. Donc, ils font taire la critique en même temps, fait qu'ils sont capables de pouvoir ailleurs fonctionner. Mais ils gagnent accès à d'autres choses aussi, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada est une société basée sur le savoir. Donc, on a d'excellents centres de recherche. Donc, la Chine peut avoir accès à des propriétés intellectuelles, peut nous voler littéralement des propriétés intellectuelles. Mais on est aussi assis à toutes les grandes tables, que ce soit l'OTAN, le NORAD, le Five Eyes. Là, ils gagnent accès à d'autres informations. Ouais. Et nous, c'est notre responsabilité que de protéger l'information de nos amis. Sinon, on commençait à manquer d'amis. Mm-hmm. Et c'est ça qui est en train d'arriver, malheureusement, avec la tergification du gouvernement de Trudeau. Ça, je lui en veux, parce que d'avoir traîné de la patte si longtemps pour prendre une décision sur Huawei, à titre d'exemple.
C'est ça.
Il n'y avait pas de raison qu'on traîne si longtemps.
Ouais, au moins, là, il a fermé la porte. Là,
là il a fermé, mais en même temps, on s'est claqué les doigts dans la porte avec nos amis, parce que eux autres avaient pris la décision 2-3 ans avant nous autres. Mm-hmm. Alors, le Five Eyes, ils commencent à nous regarder puis dire devrais-tu leur donner des informations, parce que ils semblent hésiter. S'ils semblent hésiter tant que ça, peut-être que c'est parce qu'ils sont trop infiltrés. D'ailleurs, il y a un livre qui sort cette semaine ou dans les semaines qui viennent qui s'appelle Dragon Lord, qui est une opération qui a été lancée à la fin des années 90 par les États-Unis. Après avoir reçu et lu un rapport que j'avais écrit quand j'étais au SCRS, et qu'ils se sont aperçus que le Canada faisait rien avec mon rapport. Au contraire, ils l'ont tout shreddé. Les États-Unis ont suspecté que le Canada ne serait pas en mesure ou ne prendrait pas les moyens nécessaires pour se protéger et par le fait même deviendrait une vulnérabilité pour les États-Unis.
Mm-hmm.
Alors, il y a eu une opération qui a été déclenchée par le FBI pour voir jusqu'à quel point le Canada représentait une menace pour les États-Unis.
Par la bande, c'est
par
ça.
La bande.
Ouais. Tu sais, t'as parlé de vol de propriété intellectuelle, puis là, c'est ça, depuis que t'étais venu sur le podcast, il y en a un, justement, qui s'est fait accuser de ça d'avoir pris peut-être des informations chez Hydro-Québec.
Oui, chez Hydro-Québec, mais avant lui, il y avait eu ici à l'agence spatiale à Montréal, à Laval. Il y avait un autre qui s'était fait aussi prendre. À Winnipeg, il y avait un couple qui travaillait au centre de microbiologie.
Eux autres, ils sont sauvés.
Eux autres ont pu se sauver, effectivement. Fait que, on peut voir que ça bouge, ça opère. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font toutes sortes de choses. Puis ça, c'est la pointe de l'iceberg qui est connue publiquement. Mm-hmm. Les autorités en connaissent beaucoup plus, mais ne partagent pas cette information-là parce qu'ils n'ont pas le droit de la partager.
Mm-hmm.
Mais en nous gardant dans l'ignorance, il n'y a personne qui se protège comme du monde. Et la seule vraie défense en contre-espionnage, c'est justement les avertissements et la sensibilisation que l'on peut faire. Parce qu'une fois qu'on a perdu notre information, là, c'est perdu. Il n'y a pas un avocat sur la terre, il n'y a pas un corps de police qui va être capable d'aller te chercher ce que tu as perdu. Mm-hmm. Alors, c'est perdu. Alors, il faut prévenir avant de guérir, parce que là, on ne sera pas capable de guérir. Une fois que c'est parti. Mais pour sensibiliser, il faut en avoir entendu parler. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je te donne un exemple. En Angleterre, chaque année, le MI6 et le MI5, qui sont les deux services de renseignement britanniques, organisent une grande conférence où tous les industriels peuvent venir écouter les dernières trouvailles qu'ils ont, les nouvelles techniques d'espionnage qui ont été faites, les nouveaux cas d'espionnage qu'ils ont découverts, etc. Ce qui sensibilise les responsables de la sécurité, les dirigeants d'entreprise, à mieux se protéger.
Mm-hmm.
Le SRS a voulu faire quelque chose de similaire. Mais le comité de surveillance des activités de renseignement, qui est le watchdog sur le SRS, a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Votre seule responsabilité, c'est d'informer le gouvernement. En faisant ça, là, on vient démasculer le SRS, la raison d'être du SRS.
Mettre des bâtons dans les...
Ben, oui, et là, tu te poses la question, pourquoi ils ont fait ça? C'est quoi leur motivation? Et qui a demandé d'interdire au SRS. C'est vrai que la loi dit que le SRS est supposé d'informer le gouvernement, ce que le SRS fait. Mais en même temps, on se tourne de bord puis on voit que depuis 30 ans, on informe, puis il n'y a rien qui se fait. Pire, on laisse passer des affaires devant nos yeux, au vu et au su du gouvernement. Alors, à quelque part, on se dit, OK, il y a vraiment des gens qui ont infiltré ce système, puis il y a vraiment des gens qui ont la capacité de pouvoir contrôler le processus décisionnel plus fort que nos services de renseignement.
Ouais, c'est ça.
On a un gros problème.
Ben oui.
C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, le gouvernement, il ne fait pas partie de la solution. Le gouvernement, aujourd'hui, fait partie du problème.
Mm-hmm.
Alors maintenant, la question, comment on peut régler ça pour éviter que ça revienne? Parce que le problème auquel on est confronté, c'est que le concept de l'ingérence étrangère travaille sur la tentation. Notre système, nous autres, d'élection, fait qu'en sorte, à tous les 4 ou 5 ans, on revient en élection. Donc, il y a des gens qui vont devoir, pendant un certain temps, aller chercher du support dans la communauté, de l'argent ou du support politique. Donc, on va être tout le temps en train de, entre guillemets, quémander pour du support. Ben, si t'arrives quelqu'un à dire, regarde, moi, je suis représentant de la communauté chinoise dans ta circonscription, je sais pas, moi, 50% ou 70% de la population sont d'origine chinoise. Si tu travailles avec moi, je te garantis que tu vas rentrer.
Ah, fait que ça leur donne des leviers.
Ça donne des leviers. Et c'est ce que l'on a vu. Mm-hmm. On a vu dans des élections partielles ou même nationales, des étudiants étrangers chinois faire du porte-à-porte dans certaines circonscriptions avec une feuille avec les photos des candidats et des candidates, puis il dit « Vous votez pour lui, pas pour elle. Vous votez pour elle, pas pour lui. » Et ces gens-là, littéralement rentrés parce qu'il y avait eu du porte-à-porte qui avait été fait de cette manière-là. Mmh. Et la communauté chinoise, sachant que le gouvernement chinois surveille et est au courant de qui se passe, qu'est-ce qui se passe et qui fait quoi, ben, sont intimidés. Puis là, à ce moment-là, ben, ils suivent qu'est-ce qui est dit, parce qu'ils se disent, sinon, ils vont avoir des représailles ouais. sur moi ou sur ma famille en Chine.
Puis ils ont plein de photos, puis blablabla.
Ils ont toute l'information. Ouais. Ils ont toute l'information, là. Alors, okay.
Ça se cache derrière ça.
Voilà, voilà. C'est gros. C'est un gros, gros, gros problème. Les communautés qui sont visées vivent le calvaire. C'est l'enfer total. Mm-hmm. Il faut vraiment prendre les choses très au sérieux. Et à l'heure actuelle, malheureusement, je vois pas le sérieux nécessaire.
Oh,
et
ouais.
c'est ça que j'espère amener comme commentaire et message à Ottawa, et qu'on l'entende aussi, le message. Je pense maintenant qu'il y a suffisamment de députés qui sont abasourdis, qui sont mm-hmm. vraiment estomaqués.
En alerte, là.
Oui, oui, puis ils sont en alerte. Et c'est pas tous les députés libéraux qui ont été corrompus puis qui ont été mm-hmm. compromis dans cette histoire-là. C'est vraiment la tête. Puis il n'y a pas un parti politique, by the way, qui peut lancer des roches à personne. Ils ont tous été compromis. Tous. Fait que tout le monde a à faire attention. Ils vivent tous dans une maison de verre. Alors, lancez pas de roche à personne.
OK. Aussi, est-ce que la communauté chinoise pourrait faire un soulèvement de population contre le gouvernement? Tu sais, pourrait-il avoir...
Le gouvernement en Chine ou ouais. le gouvernement ici?
Non, le gouvernement en Chine.
Non, ça les experts regardent ça depuis plusieurs années. Mm-hmm. Certains l'ont prédit, puis ça s'est pas passé. Faut comprendre que ça fait un bout de temps qu'ils sont au pouvoir là. Hein? Mm-hmm. La Chine, c'est 1949, et ils ont passé à travers la révolution culturelle, le bond en avant. Il est estimé que plus de 40 millions à peut-être 80 millions de Chinois sont morts dans les camps de concentration par la Chine. Donc, ils ont un appareil répressif efficace à grande échelle. On a juste à voir ce qui se passe avec les Ouïghours à l'heure actuelle. Des camps de rééducation, etc. C'est littéralement un génocide culturel qui est en train de se faire. Puis si ça marche pas, on les élimine physiquement. Point à la ligne. Stérilisation des femmes, viol collectif ou en faire des Chinoises ou faire des bébés chinois. Mm-hmm. C'est assez horrible. Puis c'est fait au-dessus du gouvernement chinois. C'est ça qu'ils demandent.
Ah, c'est leur politique.
Voilà. Ouais. Ils ont fait la même chose au Tibet. Ils ont fait la même chose à Hong Kong. Ils veulent envahir Taïwan. Mm-hmm. Et puis, ils veulent éliminer le mouvement pro-démocratique à Hong Kong. Alors ça, c'est les 5 poisons considérés avec le Falun Gong qu'ils attaquent aussi. C'est les 5 poisons considérés par le gouvernement chinois. Et ça, ils se concentrent là-dessus à réprimer tout ça.
Puis ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là.
Ouais, principalement. Okay. Principalement, mais ils font aussi la chasse aux dissidents à l'étranger.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis est-ce qu'on doit les craindre, justement, la Chine? On doit-tu craindre la Chine?
Énormément.
Ouais.
Énormément. C'est de loin...
C'est comme le plus gros ennemi en ce moment.
De loin, c'est notre plus gros opposant. Notre plus grande menace. Les Chinois, le gouvernement chinois, devrais-je dire, a réussi à déployer un arsenal en matière de renseignement du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de gagner de l'influence partout, puis... Ça, là, ils l'ont écrit le livre, là. Hein? Mm-hmm. 2000 ans passés, Sun Tzu, là, l'art de la guerre, là.
Ouais.
Un général chinois qui a écrit un petit livre de 13 chapitres, très facile à lire, ouais, mais encore aujourd'hui, lu dans toutes les académies militaires, lu dans tous les endroits où on parle de stratégie commerciale ou autre. Ils ont écrit le livre, littéralement, eux autres. Mm-hmm. Alors, ils savent très, très bien comment l'utiliser. Et malheureusement, nous autres, on est encore très naïfs face à tout ça. Alors, on commence à se réveiller. On a eu l'histoire des deux Mako. Ça nous a brassé un petit peu la cage. Ça a brassé la cage aussi de la planète. Parce que lorsque les deux Mako ont subi leur cirque tribunal, qui est un procès bidon totalement, mais qui a amené une condamnation là, dans l'exercice de cette pression politique que la Chine exerçait sur nous. Il y a eu des diplomates canadiens qui se sont présentés au palais de justice, mais on leur a refusé l'accès. Mais avec eux, il y avait une trolée de diplomates de d'autres pays occidentaux aussi. Et ils ont fait une manifestation silencieuse. Ils se sont tenus debout, représentant leurs pays respectifs. Mmh. Et ça a ébranlé un tout petit peu la Chine. Parce que là, pour la première fois, ils avaient semblé avoir perdu le contrôle un peu.
Puis il y avait une solidarité contre eux.
Puis il y avait une solidarité qui n'a jamais existé totalement dans le passé. Parce que c'était ça notre gros problème. C'est que en Occident, c'est à chacun pour soi. Fait que s'il y en a un qui est dans le trouble, puis qui crée un vide, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir venir remplir le vide. Et ça, c'est commercial ou politique. Donc, jusque-là, ça fonctionnait pas. Mais là, tout d'un coup, pour la première fois, il y a eu cette arrivée de diplomates qui se sont tenus avec le Canada et qui ont réalisé, OK, il y a de quoi qui se passe ici, puis... Si ça peut arriver au Canada, ça peut arriver chez nous. Okay. Alors, il y a eu finalement un réveil qui s'est fait de cette manière.
OK. Puis la Chine a comme influencé, je pense que c'est le Moyen-Orient puis l'Iran à faire comme la paix.
L'Arabie Saoudite. Et,
ouais.
La Chine cherche à être le peace broker. C'est pour tenter de réorganiser l'ordre mondial. L'ordre mondial, grosso modo, aujourd'hui et pendant longtemps, a été centré sur les États-Unis et la Russie. Ça vient de la guerre froide, mm-hmm. où les deux camps s'opposaient idéologiquement et commercialement et politiquement. Ouais. Ouais, c'est ça, un monde plus bipolaire. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a pris du plomb dans l'aile. Poutine essaie de ramener ça, d'où sa justification à lui pour aller en Ukraine. Puis la Chine regarde ça, observe ça, puis elle dit, regarde, la Russie réussira pas. Ils sont vraiment sur une mauvaise ligne. Mmh. Mais nous autres, on est peut-être capables de s'en aller dans cette ligne-là. Alors, ils essaient de réaligner en allant s'aligner avec des pas bons.
Mmh. Mais ça, des ennemis à l'Occident.
Oui, des ennemis à l'Occident. Et qui permet d'amener un contrepoids à l'influence des États-Unis ou à l'influence des pays occidentaux. Parce qu'évidemment, avec les États-Unis, suit l'Europe. Donc, on veut faire un contrepoids à ça. C'est pour ça qu'elle a tenté de négocier, elle a obtenu une paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Mm-hmm.
Elle tente de négocier une paix entre l'Ukraine et la Russie. Fait que, elle se mêle de bien des affaires. Alors, mm-hmm.
Parce que c'est ça, il y a une alliance, c'est comme la BACS, c'est comme B-A-C-S, tout ça, je m'en souviens même plus. Ah, la BRICS, excuse-moi.
La BRICS, oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ben, ça, la BRICS, c'est autre chose dans cette perspective-là.
C'est-tu une affaire comme l'OTAN ou...
Non. C'est une alliance... économique et politique de pays. Encore une fois, c'est toujours une question, puis il y a eu à travers les années tout plein d'organisations différentes, différents acronymes, tantôt qui regroupaient les Africains, tantôt qui regroupent l'Amérique du Sud. Puis souvent, la Chine se mêle de tout ça pour s'aligner avec des pays, soit en voie de développement ou toujours la même chose, faire des contrepoids. C'est une question d'influence.
Okay.
C'est une question de gagner de l'influence. C'est pour ça que la Chine s'est beaucoup intéressée à l'Afrique à cause de ses ressources naturelles. Et littéralement, elle a acheté son passage tout partout parce qu'elle a beaucoup d'argent puis elle est capable d'acheter, soudoyer beaucoup de gouvernements. Puis ça a fonctionné.
Mm-hmm.
Ça a fonctionné. Puis elle va continuer de faire ça.
Parce que ça, c'est une alliance avec quand même des gros pays. Mm-hmm. Tu sais, tu as le Brésil, la Russie, l'Inde, puis c'est ça, la Chine.
C'est ça.
Je pense qu'ils ont rajouté South Africa. Là.
Récemment.
Oui, c'est ça.
Oui, effectivement. Encore une fois, même concept. Essayer de rallier quand même des pays importants. Je veux dire, si on regarde économiquement, le Brésil, la Russie, la Chine... l'Inde et l'Afrique du Sud.
C'est des pays qui ont beaucoup de ressources.
Qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de pouvoir économique, puis qui sont géographiquement bien situés aussi.
Ouais.
Là. Tu viens de couvrir l'ensemble de la planète là d'un seul coup. Là. Est-ce qu'ils vont être capables, malgré tout, d'opposer une certaine résistance? sur certains votes ou certaines questions, qui est très large, là, imagine aux Nations Unies, là, on discute des droits de la personne, aux questions de réfugiés, aux questions alimentaires, aux questions de drogue, aux questions... Tu sais, il y en a là, des sujets. Ben, à divers endroits, des fois, ils vont être capables de tirer leur ficelle du jeu. Puis ça, ça sert pour la négociation dans d'autres. Alors, ils vont venir te dire, ben, si tu me donnes ici, ben, je vais voter pour toi dans celui-là. Alors, c'est des échanges comme ça qu'il y a. C'est ce qu'on appelle la diplomatie, c'est à haut niveau. La plupart de la population n'entend jamais parler. Est-ce qu'elle aimerait entendre ce genre de choses-là? Pour la plupart de la population, la vie est un peu plus simple. Mm-hmm. Sur la scène internationale, mais c'est le vieil adage qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mm-hmm. Alors, si un jour c'est mon intérêt d'avoir A, puis que je suis capable de te donner B, ben en retour peut-être plus tard j'aurai C. Alors c'est ce troc qui est fait des fois.
Quelle relation la Chine a avec la Russie?
En ce moment, encore une fois, même concept. Avec la Russie, on va faire un contrepoids à l'influence ou la présence américaine. On voit toujours, de leur point de vue à eux, on voit toujours les États-Unis comme étant un gros problème. C'est quand même la plus grosse puissance militaire et politique mondiale. Suivi de près, là, maintenant, par la Chine, mais avec la Russie, s'est embourbée. La décision de Poutine de faire ce qu'il fait à l'heure actuelle, il l'a pas vu comme ça du tout. Il l'a vraiment pas vu. Lui, il pensait là qu'en deux temps, trois mouvements, boum, boum, c'était réglé, l'Ukraine, puis il avait passé le bulldozer, puis tout était fait.
Comme il avait fait avec la Crimée, dans le fond.
Oui, oui, ni plus ni moins. Eh bien, c'est loin d'être arrivé de cette manière-là, on le voit. Mais ça, la Chine le constate en disant, parce que tout le monde est compétiteur avec l'autre, hein? Tout le monde est en compétition. Alors, si aujourd'hui la Russie est prise, ben je vais l'encourager à continuer parce que plus longtemps elle est prise dans cette guerre-là...
Moins les regards sont sur moi,
moins elle est capable de capter et de conquérir des marchés ou avoir une influence sur la scène internationale. Ah ouais. Alors que moi, je peux gagner en influence internationale parce que l'autre est distraite. Alors c'est, je te distrais avec la main gauche ou je te laisse continuer d'être distrait avec la main gauche puis je te vole ton portefeuille avec la main droite.
Puis c'est une main qui font ça. Aussi, moi, c'est ça. J'ai déjà entendu ça, je sais pas à quel point c'est vrai, là. Mais en même temps, on l'a vu avec Saddam Hussein qui avait des sosies. Vladimir Poutine, y a-tu des sosies? Ça, c'est pas vrai.
Pas mal sûr qu'il devrait avoir des gens qui y ressemblent, effectivement. Qu'il fait beaucoup de sorties, des fois, en public. Il n'y a pas toujours des discours à donner. Puis il sait qu'il est ciblé. Bien que, aujourd'hui, même si... admettons dans l'hypothèse qu'on aurait la possibilité de le débarquer avec un sniper, un tireur d'élite, je crois pas que ça serait une bonne affaire. Parce que le vide politique qu'il créerait pourrait peut-être mettre quelqu'un de pire. C'est vraiment l'adage, si tu connais ton ennemi, t'es capable de contrôler un peu sa destinée. Mais si t'as quelqu'un de totalement nouveau que tu connais pas, tu sais pas comment il va se comporter.
Impulsif,
On sait pas comment il va se comporter. Et en plus, tu viens de créer un martyr avec l'autre que tu viens d'abattre. Fait que, à l'heure actuelle, en Occident, la stratégie non avouée va être on va soutenir l'Ukraine le plus longtemps possible. De toute façon, on s'entend, là, l'Ukraine est rendue en parking lot. Là. C'est flat partout. Ils ont tout démoli. Alors, quand ça va être terminé, ben nous, on va arriver avec nos milliards. On va reconstruire l'Ukraine. Là, l'Ukraine va renaître de ses cendres neuves. Mm-hmm. Elle va être en avant au niveau de la technologie. Elle va être alignée avec l'Europe. Là, c'est fini. Là. Il n'y aura plus d'alignement avec la Russie. Là. Il n'y a plus d'amis du tout en Russie. Du tout. Là. Surtout que le peuple russe n'est même pas capable de voir la menterie qui lui est comptée. Alors, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui va apprendre le russe en Russie, en Ukraine. On va parler ukrainien, anglais ou français. On va venir s'aligner avec l'Ouest. Et pendant ce temps-là, la Russie s'affaiblit. Parce que ça coûte cher, là. Elle ne gagne pas cette guerre-là. Là. Ça lui coûte cher en matériel.
Est-ce qu'il y en a qui la financent, ce gars-là.
Ben... Indirectement, il y en a peut-être qui l'aident secrètement, mais c'est certain qu'elle a eu, depuis 1990, la chance d'exploiter au niveau criminel l'ensemble de la planète. C'est le pays, un des pays les plus corrompus, là, et c'est reconnu par Transparency International. Qui est une organisation qui s'occupe de voir l'état de corruption dans tous les pays du monde et qui les classe. Bon, la Russie, c'est pourri. Mais ils ont accumulé des fortunes extraordinaires. Tous les oligarques qui travaillent avec Poutine, etc., ben, ils vont lui donner de l'argent, puis ils vont être capables de l'aider. C'est quand même un pays qui avait beaucoup de ressources. Mm-hmm. Puis pendant longtemps, comme je disais, ils ont pu fonctionner, puis ils peuvent encore un peu fonctionner parce que l'Ouest est devenu dépendant du pétrole et du gaz russe. Fait qu'on n'a pas coupé les tuyaux totalement. En plus, ben, tu as des pays ou des républiques limitrophes qui travaillent avec la Russie, comme l'Arménie. L'Arménie n'est pas sous boycott aucun. Fait que l'Arménie commande tout plein d'affaires de l'Occident, puis avec des camions, ben, elle les envoie en Russie. Puis là, avant la Russie. Puis la Russie l'achète à gros prix. L'Arménie, eux autres, font des affaires d'or à l'heure actuelle. Mm-hmm. Puis on le sait, mais on n'est pas comme capable de l'interdire à l'heure actuelle. Parce qu'en théorie, on n'a pas rien contre l'Arménie, tu sais. Mm-hmm. L'Arménie profite aujourd'hui. Il y a
de ce statut-là.
Voilà.
OK.
Ils continuent à donner ben, l'oxygène nécessaire pour que la Russie puisse continuer. Mais éventuellement, ce qu'il faut, c'est que... quand même, la Russie s'écœure une fois pour toutes de Poutine, mm-hmm. et que la Russie débarque Poutine de son poste
pour la remplacer. C'est plausible, ça?
Ce serait plausible. C'est plausible.
Ouais?
Ouais. Il faut falloir. Tu sais, à titre d'exemple, en Afghanistan, dans les années 80, tu te souviendras que la Russie ou l'Union soviétique était rentrée en Afghanistan pour mettre un gouvernement pro-Moscou. Pourquoi il avait fait ça? C'est parce que si tu regardes sur la carte géographique, toutes les régions pétrolières, très haute quantité de pétrole et de gaz de la Russie, est en ligne droite vers l'océan Indien. Mais pour y arriver, il faut passer par l'Afghanistan et le Pakistan. Le Pakistan, c'était pas un problème, mais l'Afghanistan, c'était un problème. Alors, ils ont tenté de prendre contrôle de l'Afghanistan. Mais ils sont embourbés, comme les États-Unis se sont embourbés, ou le Canada s'est embourbé dans une guerre qu'ils ont éventuellement perdue ou concédée. Ils n'ont pas nécessairement perdu, ils ont concédé. Et pourquoi ils l'ont concédé? Parce qu'à un moment donné, les maires russes étaient curés de voir des body bags rentrer en Russie.
C'est quoi ça, des body bags?
Les sacs dans lesquels on met les soldats morts pour transporter les soldats et les retourner à la maison. Il y en avait trop. Ouais. Il y avait tellement de soldats russes qui se faisaient tuer puis qui revenaient dans des sacs. Ils ont dit, regarde, c'est assez. Et c'est les maires qui ont fait pression puis qui ont contribué à ce moment-là. C'est pas ça qui a fait tomber l'Union soviétique. On s'entend, il y a tout plein de choses. Mais ça a contribué à un peu. Dans cet ordre d'idées-là, je pense que la Russie, à un moment donné, va commencer à s'écœurer. Parce que là, ils sont en train de passer à travers tous leurs soldats réguliers, puis ils sont obligés d'envoyer des conscrits. Les conscrits, ils sont pas d'accord, eux autres, à aller se faire tuer pour rien, puis ils sont mal équipés en plus. Mm-hmm. Et les troupes Wagner, qui sont les troupes de mercenaires, utilisent justement les recrues comme appât, les conscrits comme étant un appât. Ils savent qu'ils vont se faire tuer pour essayer d'attaquer les Ukrainiens en retour. T'sais. Les Ukrainiens ont des grosses pertes aussi en même temps, mais leur détermination du combat puis la qualité des armes qu'ils reçoivent à l'heure actuelle est supérieure. Puis là, ils vont commencer à utiliser les fameux tanks Léopard, les chars d'assaut Léopard. Ça risque aussi d'amener quelque chose de différent. Mais action-réaction. Les Léopards commencent à être trop efficaces. Ils commencent à détruire tous les chars d'assaut russes. Bon, les chars d'assaut russes vont se retirer. Mais là, vont-ils vouloir utiliser les armes dites stratégiques nucléaires? Ouais. C'est une autre option, ça aussi. Mais je pense que Poutine va se retenir parce que s'il commence à utiliser les armes à caractère nucléaire, là, il risque d'avoir l'OTAN qui va se lever debout puis qui va commencer à vouloir. Parce que
bon, qu'est-ce qui va l'empêcher? C'est l'autodestruction, tout va péter.
Ben non, ce qui c'est, l'autodestruction, ça pour la Russie peut-être, mais ça va être vraiment là on y met le paquet. Puis là on va aller régler ça. On va aller régler ça comme il faut. Parce que l'OTAN pourra pas, du point de vue militaire ou de sa population, parce que l'OTAN c'est les pays occidentaux, la population occidentale acceptera pas là, cette menace nucléaire là de cette manière là. Mm-hmm. Alors Poutine peut la brandir cette menace là. Comme il est imprévisible un petit peu, on peut peut-être dire c'est pas plausible qu'il puisse l'utiliser, mais en même temps il est quand même assez fou, pas assez fou pour ne pas prendre en considération que la riposte va faire mal en quelque chose de rare.
Puis es-tu opérationnel cette attaque-là?
Oui. Ouais? Oui, ils sont capables d'en faire l'emploi de ces armes-là. Oui. Ces armes stratégiques nucléaires là sont efficaces et sont opérationnelles.
Mm-hmm.
Mais ils n'ont jamais été utilisés nulle part. Et le moment qu'on va l'utiliser, la chaîne des événements qui vont se suivre après ça risque d'être assez grave. Là, on va parler d'une troisième guerre mondiale, c'est sûr.
Penses-tu que ça l'achève, ça, dans la guerre en Ukraine?
Non.
Non, ah non, c'est pas encore
au moment où on se parle, au moment où on se parle, l'Occident va laisser continuer la guerre en Ukraine. Plus l'Ukraine va être détruite, plus belle elle va être à la reconstruction. Plus alignée encore l'Ukraine va être vers l'Occident parce que c'est l'Occident qui va l'avoir soutenue. Donc, on vient de gagner un allié important. Et plus ça dure, plus la Russie s'affaiblit.
Mm-hmm.
Et c'est l'ultime objectif, c'est que la Russie soit affaiblie à un point qu'elle pourra plus se relever.
Mais en même temps, c'est une guerre créditée, là, tu sais, parce que l'Ukraine, justement, n'a pas cet argent-là, tu sais, c'est tout prêté, tout ça.
Oui, mais
il y a des affaires données, mais il y a des affaires qu'elle va devoir.
Oui, mais ça, elle va les repayer en donnant des contrats aux compagnies puis aux pays qui l'a aidé. Dire, OK, venez me construire des maisons, venez me construire des usines, venez me construire des hôpitaux, venez remonter mon système informatique, mon système de communication, mon système électrique. Tout est détruit. Toutes les infrastructures.
C'est pas un peu dangereux pour eux autres de faire ça?
Non. Encore une fois, le problème, c'est qu'avant la Russie, avant l'attaque de la Russie, c'est vrai que l'Ukraine vivait un énorme problème de corruption.
OK.
Et cette corruption-là avait été plantée par la Russie. Il y a eu une mini-révolution. On a tenté de se débarrasser de ça, mais c'était comme trop gangréneux, puis c'est revenu. Parce que même à l'heure actuelle, récemment, il y a une quinzaine de personnes qui ont été arrêtées, dont le ministre de la Défense, pour corruption.
Oh,
en
ouais.
plein milieu de la guerre. Alors, on peut voir que c'était profond, puis c'était quasiment dans les mœurs de certains. Et ça, il faut que ça cesse. Bon, il n'y a pas un pays sur Terre qui
est blanc comme neige.
Ouais, qui est blanc comme neige. Il n'y a pas un pays, même le Canada, là, on en a des niveaux de corruption. Tout le monde se souvient de la commission Charbonneau, tu sais, juste encore une fois la pointe de l'iceberg.
Scandale des commandites,
et puis on pourrait continuer comme ça.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que en Ukraine, c'était un petit peu plus profond, c'était un petit peu plus institutionnalisé ou systématique. Ça, il faut régler ça. Faut régler ça. Puis la guerre est en train de faire ça. Fait que...
Il y a de quoi te parler quand tu étais venu dans le premier podcast que tu avais parlé vraiment rapidement là aussi en faisant le montage. J'ai fait « Ah, c'était quoi cette affaire-là? » Puis tu avais parlé de Air India. Ça a été un attentat qui est arrivé...
1985.
Ouais, c'est ça. Puis tu veux-tu raconter ça a été quoi cet attentat-là? Parce que c'est un des plus gros attentats qu'il y a eu au Canada, ça, je pense.
Le plus gros au Canada... Et avant le 11 septembre 2001, le plus gros au monde.
Ah ouais.
C'était l'attentat le plus meurtrier que le terroriste que la planète avait connu. C'est simple. Juin 1985, des terroristes sikhs, en revanche pour une attaque qui avait été conduite contre le temple sacré au Punjab, ont fait un attentat sur un avion d'Air India en partance du Canada vers l'Inde. Il y a 324 personnes, si ma mémoire est bonne, qui sont décédées de cet attentat-là. Ce qui est plate, c'est que un an auparavant, le SCRS avait été créé et le chamoyage qui existait entre le SCRS et la GRC a fait que on n'a pas pu empêcher un attentat qu'on aurait pu empêcher.
Mm-hmm.
Parce que ce qui est arrivé, c'est que l'ambassade indienne est allée prévenir la GRC comme quoi ils avaient des informations qu'une attaque en provenance du Canada sur un avion d'Air India se préparait contre un avion d'Air India. Donc, il a visé la GRC. Mais la GRC ne l'a pas dit au SCRS. Et le SCRS, au même moment qu'il enquêtait sur les Sikhs, ont surveillé, ont pris en filature trois des terroristes du groupe qui sont allés essayer une bombe dans un pit de gravel, dans un trou de sable. Et d'ailleurs, c'est comique parce que quand tu lis le rapport de surveillance, je l'ai lu, ils ont fait peur en tabarouette au gars de la surveillance, ils ne s'attendaient pas à ça.
Ah ouais.
Mais on savait qu'ils venaient de tester une bombe. Mais ils l'ont pas dit à la GRC. Alors, les deux avaient des pièces d'information cruciales.
Qui auraient pu mener à leur arrestation.
Qui auraient pu mener à l'arrestation de ces gars-là, puis ils n'ont rien fait. Et ça, on a appris ça que 20 ans plus tard.
Ouais.
Pire encore, si on peut dire, c'était vraiment le destin qui s'acharnait sur cet avion-là. L'avion fait escale à Montréal. Et avant de partir vers les Indes. Et il y avait un officier... policier d'Escouade Canine de la Sûreté du Québec qui devait aller inspecter les valises de l'avion. Mais il a été pris dans le trafic sur le métropolitain.
Oh.
Il n'a pas pu se rendre à temps. Et le directeur du vol à l'aéroport a dit « Moi, j'attends plus. Faites partir l'avion. » Et en partant, la bombe est partie avec eux autres. Ça a sauté au-dessus, proche des côtes de l'Irlande. Et l'avion s'est abîmé en mer, puis tout le monde est décédé dans l'avion.
Ah ouais.
Mais c'est comme ça, sapristi, le destin s'est acharné sur eux autres. Mm-hmm. Parce que si l'escouade canine ou si le policier avec son chien était arrivé, il aurait probablement détecté cette bombe-là. Là,
ben oui.
Ça, encore une fois, ça aurait pu être prévenu.
Oui.
Puis j'avais lu aussi dans l'article qu'il y avait des témoins. Puis il y en avait un qui avait été assassiné.
Il y a un témoin qui a été assassiné, il y a un témoin qui a changé complètement son... Puis il y en a un autre qui a complètement pas voulu témoigner.
Parce qu'il avait trop peur.
Et c'est ça, exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est parce qu'on connaît moins, nous autres, ça ici au Québec, mais la tension qui existe dans la communauté indo-sikh de la Colombie-Britannique, elle est très haute. Et c'est pas toutes les Sikhs qui supportent les activités terroristes. Donc, même à l'intérieur de la communauté Sikh, il y a des assassinats qui ont eu lieu à travers les années des gens les plus modérés par les extrémistes.
Mm-hmm.
Et ils ont contrôlé assez fort, assez bien la communauté Sikh de modérée. Alors, c'est difficile. C'est difficile pour la communauté. Là, ça s'est un peu... Ça a un peu diminué, beaucoup diminué, même comparativement aux années 80, parce que beaucoup des extrémistes sont vieux et décédés.
Ouais.
Mais cela dit, il y a encore de l'attention, c'est encore un danger, puis c'est encore une préoccupation.
Puis c'était quoi, eux autres, leur but, leur revendication?
Ben, eux autres voudraient se séparer littéralement de l'Inde. Le Punjab, qui est l'endroit où se trouvent les Sikhs, ben, voudraient se séparer de l'Inde pour créer leur propre république ou État à eux, etc. Parce que la religion sikh n'a rien à voir avec la religion hindoue.
Mm-hmm.
Et il y a des extrémistes assez costauds là, du côté de l'Inde aussi. Ben, c'est à cause justement de ces extrémistes-là que les musulmans indiens qui se faisaient persécuter et qui avaient des accrochages constamment a amené à la création du Pakistan. Le Pakistan a été créé justement pour donner une chance aux musulmans indiens de s'en aller dans un pays où ils pourraient pratiquer leur religion sans être écœurés par les hindous extrémiste, parce qu'il y a des hindous extrémistes.
Fait que c'est ça, ça a été une des pires histoires de du SCRS puis de la GRC. Parce qu'ils ont été bien pointés du doigt.
Avec raison. Puis en plus, ben, il y a eu des choses quasi impardonnables qui ont été faites. À titre d'exemple, le SCRS a été reproché d'avoir effacé intentionnellement des bandes d'enregistrement de conversations interceptées de ces fameux terroristes-là, sous prétexte qu'il y avait une politique interne qui disait qu'on n'avait pas le droit de garder ou on n'allait pas garder, parce qu'on n'avait pas le droit, on n'allait pas garder les enregistrements de conversations plus longtemps que 90 jours. Et ça, c'est de la bullshit. Il aurait pu les conserver. C'était des preuves, cela.
Ben ouais.
Mais lorsque le SCRS a été créé en 1984, les dirigeants du SCRS ont eu des ordres très formels. Ramassez-vous jamais en cours. On veut pas que vous ayez en cours. Et ça, c'était l'héritage de la commission Keb puis de la commission McDonald des années 70-80. À la fin des années 70 et la fin des années 80, il y a eu deux commissions d'enquête. À un moment donné, t'as un agent de la GRC, dénommé Samson, qui va aller placer une bombe chez Steinberg. Steinberg, c'était le propriétaire d'une chaîne de magasins.
Mm-hmm, il se faisait passer pour un FLQ, dans le fond, c'était
ben,
ça?
En tout cas, il aurait pu, oui, effectivement, mm-hmm. mais dans le cas présent, Samson faisait ça pour le crime organisé,
okay.
qui avait infiltré le syndicat des employés chez Steinberg. Puis là, il y avait un conflit syndical. Et là, il allait poser une bombe à Westmount chez Steinberg. Mais la bombe, il a pété des mains. Il a perdu trois doigts.
Mm-hmm.
Et les trois doigts sont restés là, à terre. Il s'est sauvé, mais on a retrouvé les doigts, nous autres, là. Et tous les officiers de la GRC, tous les agents de la GRC, on est tous... nos empreintes digitales ont toutes été prises. Fait que quand ils ont trouvé les trois doigts, ils ont trouvé le gars.
Ouais.
Et lui, s'est même rendu à un hôpital parce qu'il fallait qu'il se fasse soigner. Puis il a dit, je suis en train de réparer ma voiture, puis ça a sauté dans ma face. Non, regarde.
Oui, c'est ça.
Oui. T'sais. Alors, il s'est fait arrêter. Il a été arrêté, il a été en procès, il a été condamné. Et quand le juge l'a réprimandé dans son verdict final, d'une manière très insolente, il a dit, vous pensez que c'est gros, ça? J'ai fait pire pour la GRC. Et le juge a dit, pardon? Et là, il a commencé à se mettre un petit peu à table. Il a révélé des activités clandestines que la GRC avait fait à la demande de M. Trudeau pour contrer le mouvement séparatiste au Québec.
Ouais.
Mais ça, on est à quelques années, à quelques distances d'octobre 70, là. Le FLQ, les attentats, le meurtre, ça brassait. Là, il y avait des activités terroristes avec le FLQ, Front de libération du Québec. Donc, le gouvernement de M. Lévesque, qui vient d'arriver au pouvoir à ce moment-là, a dit, attends une minute, là. On va faire une commission d'enquête provinciale, et ils ont nommé un monsieur, un avocat qui s'appelle M. Keble, qui a donné des subpoenas, qui a amené les agents de la GRC à témoigner. Il y a des agents de la GRC qui sont des policiers, ben, ils ont respecté le subpoena, puis sont allés témoigner, puis en témoignant, inévitablement, ils ont révélé beaucoup de choses, comme ils ont brûlé une grange, ils ont fait des entrées par infraction clandestines,
dans les bureaux du Parti québécois, pour essayer de voler leur
liste. Exactement. Donc, la liste de membres. Donc, ça a déclenché cette commission d'enquête-là. Mm-hmm. Là, à un moment donné, Trudeau, père, a dit « Wow, time out! » Une commission d'enquête provinciale qui demande à des officiers fédéraux de venir témoigner. Il y a quelque chose qu'on doit faire là-dessus. Alors lui, il s'adresse à la Cour suprême et la Cour suprême a dit « Ouais, vous avez raison, une commission d'enquête provinciale ne peut pas forcer des agents fédéraux à témoigner. » Mais là, le chat était sorti du sac. Fallait quand même qu'on arrive au bout de tout ça et que le gouvernement Trudeau s'explique. La GRC, c'est quand même une agence fédérale. Alors là, il a dû faire une autre commission qui s'appelait la commission McDonald. La commission McDonald a quand même dû voir et réaliser, ils ont caché beaucoup de choses, ils ont amoindri beaucoup de choses, mais tu pouvais pas défendre l'indéfendable.
Mais tu voulais-tu... En faisant ça, eux autres, ils allaient... Tu sais, vu que c'est demandé par le père Trudeau... tu sais, c'est sûr qu'eux autres, ils ont un peu un agenda politique, là, tu sais, ça va aller en fonction de...
Eux autres étant la GRC?
Ouais.
Oui, ben ça, c'est le problème auquel on est confronté dans les années 70. Dans les années 70, la relation entre les services secrets et le gouvernement est peut-être un petit peu trop près.
Ben ouais, ça devient quasiment ses chiens.
Exactement, c'est exactement. Et le gouvernement fait ce qu'il fait ce qu'il veut avec son bras armé, qui s'en appelle la police secrète.
Mais quand il a voulu se débarrasser du souverainisme au Québec, là, tu sais, il y a eu bien des affaires que Trudeau y a faites, justement.
Oui, exactement. C'est la GRC qui avait été été mis en charge de tout ça. Ouais. Et c'est pour ça que lorsque le chat est sorti du sac, ben il pouvait pas reculer en arrière. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, les gars de la GRC ils respectent trop la loi quand ils reçoivent des subpoénas, des choses de ce genre-là. Fait qu'on va leur enlever beaucoup de pouvoir, puis on va créer une nouvelle agence gouvernementale. Cette nouvelle agence-là était le Service canadien de renseignement de sécurité. Okay. Alors, le 16 juillet 1984, on crée le nouveau Service de renseignement canadien. Et là, c'est juste des fonctionnaires. C'est plus des policiers, ils n'ont plus le port d'armes, quoi que ce soit de ce genre-là. Ils n'ont plus le droit de procéder à des arrestations. Et on ne veut plus jamais qu'ils aillent en cours. Fait qu'ils se sont fait dire, arrangez-vous comme vous voulez, là, mais vous n'allez plus jamais en cours. Je reviens à Air India, c'est un grand détour, mais India pour dire, on avait des enregistrements, des terroristes qui se parlaient entre eux de l'attentat et qui le préparaient, etc. Puis le CRS est allé effacer ça.
Parce qu'il voulait pas perdre la face à cause de cette affaire.
Non, il voulait pas aller avoir témoigné.
Ouais, c'est ça.
Parce que si tu vas en cours, tu présentes une preuve, faut que tu dises de qui tu l'as eu, cette preuve-là. Et la personne qui l'a eu doit venir témoigner pour dire c'est moi qui l'ai ramassé de telle manière, tu sais.
Mm-hmm.
Et ça, ils ont toujours voulu éviter ça. Et à travers l'histoire du SCRS, il y a plusieurs incidents comme ça, avec McRassam, Delisle, à Halifax, où le SCRS va contrecarrer un peu les enquêtes criminelles, que ce soit de la GRC, du FBI ou de quelqu'un d'autre, parce qu'ils veulent pas témoigner. Ils veulent pas que les agents témoignent.
Mais ça, faudrait que ça change.
Oui. Oui. Il faudrait que ça change, effectivement. Mais jusqu'à date, le gouvernement, il aime pas ça parce qu'il aimait être capable de contrôler son petit chien-chien comme il voulait. Et là, je reviens aux histoires de la Chine. Ben, le SRS, il a avisé le gouvernement. Comme quoi, il y avait toute cette ingérence étrangère-là. Mais le gouvernement, il a dit, « Hey, va t'asseoir dans ton coin, toi. Laisse-moi tranquille. » Alors, depuis 30 ans, tous les gouvernements ont été compromis, puis le SCRS est toujours placé dans le coin, ou s'est placé dans le coin tout seul, sachant que son patron ne voulait pas d'entendre parler.
Ouais.
C'est ça qu'il faut qu'il brasse. C'est ça qu'il faut qu'il change.
Une autre affaire de Trudeau le pain, tabarnak, qu'il a faite.
Ben, en tout cas, c'est un héritage avec lequel on est pris depuis très, très longtemps, mais on aurait dû et on devrait prendre conscience de tout ça, mais il n'y a pas une tonne de gens qui connaissent toute cette histoire-là puis qui réfléchissent à ces histoires-là ou que les gens s'intéressent à ça. Parce que il n'y a pas un gouvernement qui avait intérêt à ce que ça change.
Ben ouais, on en parlait.
Parce qu'il pouvait l'utiliser comme il voulait.
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'il n'y a pas un gouvernement qui a voulu changer. Mm-hmm. C'est pour ça que, je disais tout à l'heure, le service que cet agent ce whistleblower, ce lanceur d'alerte nous a rendu, c'est un service incroyable. Mm-hmm. Parce que s'il ne nous avait pas dit ça, on serait encore peut-être pour un autre 10 ans avant qu'on apprenne quoi que ce soit.
Ouais.
Et pendant ce temps-là, tu sais, l'ingérence étrangère, là, c'est comme une infestation de fourmis chez vous. Tu sais, quand tu te lèves, là, tu vas aux toilettes le soir, puis là, tout d'un coup, tu vois 2-3 fourmis à terre, tu te dis, bon, regarde, on va régler ça tout de suite, tu prends les moyens nécessaires, push, 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 tu trouves le trou, puis t'en as plus de fourmis. Mais tu fais rien. Avant longtemps, tu vas avoir une armée de fourmis, puis là, c'est une infestation, et là, tu as besoin d'experts qui viennent nettoyer ta maison. Mm-hmm. C'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Là, on a une infestation, puis si on la laisse aller encore plus loin, ben ça va être encore pire.
Puis qu'est-ce qu'on a appris de Air India? On a-tu appris quelque chose de ça? T'sais? Est-ce qu'ils se sont... ils ont changé la donne? Ils ont essayé de faire
Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est comment la machine gouvernementale arrive à... Parce que une machine gouvernementale, ça a une vie qui lui est propre. D'ailleurs, il y a des philosophes qui ont travaillé là-dessus. Dans mes études, j'ai adoré un philosophe en particulier qui s'appelait George Simmel, un philosophe allemand des années 20-30, qui explique grosso modo que quand on crée quelque chose comme un gouvernement, ça prend vie. Et ça va évoluer tout seul. Et cette machine-là va se développer des moyens d'autodéfense. Et lorsque tu essaies de l'attaquer, elle va se défendre. Mais elle n'a pas d'émotion, elle, là. Ça va être très, très, très froid, sa réponse. Puis elle va s'auto-protéger. Les leçons qu'on a tirées entre le SCRS et la GRC, c'était temporaire, s'il y a des leçons qui ont été tirées.
Oh,
encore
ouais.
Aujourd'hui, c'est qui fait pipi le plus loin entre les deux? Là? C'est encore une fois...
De pouvoir.
Oh, il y a encore du chamoyage, du tiroyage entre les deux, parce qu'un, ils se battent tous pour avoir leur budget, puis d'avoir le plus de budget possible, puis qui va faire quoi. Puis le SCRS veut toujours pas aller en cours, fait que quand ils sont mêlés dans des dossiers, ils essayent de garder la GRC le plus loin possible, autant que possible, fait que... Le SCRS partage pas bien ses bébelles dans le cours là, de récréation avec les autres. Là. Et ça, ça cause problème. Ça cause problème. Et ça, c'est à cause de la culture qu'on a instaurée depuis 1984. Et ça, il faut que ça change. Mm-hmm. Il faut que ça change. Parce que ça n'aide pas le pays.
Dernier dossier que je veux te parler, après ça, je te laisse, c'est Jeffrey DeLisle.
Ah oui?
Parce que ça aussi, ça a été un gros dossier important
oui.
que tu avais parlé, tu sais, vite fait. Puis ouais. là, pour ça, j'étais allé googler justement c'était quoi.
Ah bon?
C'est ça. C'était comme un militaire qui était dans le fond
ouais.
un espion pour le compte de la Russie.
Exactement. Alors, Jeffrey DeLisle, c'est un lieutenant de la marine canadienne qui a accès très secret à activité spéciale à Halifax sur des renseignements de l'OTAN et du NORAD. Et qui a des problèmes d'argent. Il y a une mauvaise séparation, il doit payer une allocation à son ex-femme, il y a des problèmes de jeu. Donc, ça va pas son affaire. Puis, c'est un officier médiocre. Alors, ses chances de promotion sont presque nulles. Alors, un jour, il prend de sa propre initiative la décision d'aller à l'ambassade russe à Ottawa. Il cogne à la porte, il se présente sa carte d'identité, puis il dit « Je suis un officier militaire de l'armée canadienne, puis je suis prêt à collaborer avec vous autres, je vais vous donner des secrets. En retour, vous allez me payer pour ça. » Et au début, évidemment, les Russes ont dit « C'est qui ce
ouais,
gars-là? »
C'est trop beau pour être vrai.
Ouais, c'est ce qu'on appelle dans mon domaine un « walk-in ». Et un « walk-in », ça peut être aussi une opération, un attrape-nigo,
ouais.
tu sais. Mais ils ont fait leur vérification, puis ils ont vu qui c'était, puis qui il était, etc. Puis ils se sont donné aussi une assurance. Ils ont trouvé où il demeurait, puis ils ont pris des photos de ses enfants. Et puis à un moment donné, quand il a commencé à donner le secret, puis il a dit « OK, j'en ai assez », il dit « Non, tu vas en donner encore. Sinon, il va peut-être arriver quelque chose. » Puis là, ils ont montré la photo des enfants. T'sais. Alors, il était pogné. Il a fallu qu'il continue.
Puis il ne peut pas aller voir ses supérieurs.
Non,
il va se touler.
Non, c'est un traître, lui-là. Alors, pendant 3 ans, pour une poignée de dollars, il a donné des secrets, très secrets, à la Russie. Jusqu'à temps que le FBI le découvre. Et comment ils l'ont découvert? C'est que pendant ce temps-là, où le FBI a arrêté un autre réseau d'espions russes aux États-Unis. Et ce réseau-là, il recevait de l'argent de la Russie dans un compte de banque aux États-Unis.
Il a regardé c'est qui, les transactions.
Lui, il recevait dans le même compte de banque.
Ah ouais.
Alors, ils se sont dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, ils ont découvert qui c'était, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Alors, ils ont prévenu le SCRS en juin. Et là, ils ont dit, allez-vous prévenir la GRC? Ils disent, oui, on s'en occupe. Mais ils disent, avant, on va faire des vérifications. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, le FBI, il dit, coudonc, avez-vous prévenu le SCRS, la GRC, parce que ce gars-là, il continue à faire des choses. Oui, on va s'en occuper. Finalement, il s'écœure. Le FBI call un meeting avec la GRC et le SCRS, et là, révèle à la GRC pour la première fois ce qui est en train de se faire.
Ouais.
La GRC, évidemment, pas de bonne humeur. Et là, elle demande au SCRS, allez-vous nous donner vos notes d'enquête, parce que vous autres enquêtez depuis le mois de juin, puis on est rendu au mois de novembre. Ah! Non, on peut pas faire ça, on peut pas compromettre nos sources. Alors, la GRC a perdu 6 mois, ni plus ni moins, d'enquête. Il a fallu qu'ils recommencent à zéro, qu'ils fassent très, très, très vite. Finalement, ils ont procédé au mois de décembre à l'arrestation du bonhomme en question. Jeffrey DeLille, mais encore une autre belle démonstration où le SCRS n'a pas travaillé avec la GRC.
Puis
ça, ça nuit à la sécurité.
Ouais, puis ils n'ont rien compris de R&D.
Ils n'ont rien compris.
Ah ouais. Puis c'était des informations comme quoi environ, tu sais-tu?
Ben, on n'a pas les détails parce que ça reste encore des informations très secrètes, mais c'est des informations en provenance des nations de l'OTAN et du NORAD. Donc, c'était des informations caractère très secret, tactique militaire. Et c'était les services de renseignement militaire russes qui s'occupaient de lui, d'ailleurs, qui l'ont rencontré, d'ailleurs.
Ah ouais.
God, il s'est fait prendre principalement en revenant d'un voyage du Brésil, où son contrôleur lui avait demandé de se rendre au Brésil pour aller donner des documents là-bas, puis lui, il voulait avoir plus d'argent. Finalement, ils l'ont retourné avec des cartes de crédit loadées, puis il s'est fait prendre au retour à Halifax, il a été vérifié, puis il disait qu'il était allé là juste quelques jours, mais il y avait des reçus pour des grosses dépenses. Il était vraiment nul.
Lui, il se défendait en disant qu'il voulait faire un suicide professionnel.
C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'un suicide professionnel quand tu deviens un traître pour ton chose? Oui, ça a été un suicide professionnel, effectivement. aujourd'hui, il a obtenu sa libération conditionnelle. Je sais pas où il travaille, là, ou j'ai pas cherché à connaître plus, là. Mais je suis pas celui qui travaille plus pour les Forces armées canadiennes.
Ben non.
Et là, les Forces armées canadiennes ont eu aussi un mea culpa à faire parce que, au gouvernement, lorsque tu as accès à des informations confidentielles classifiées, donc secret, très secret, etc., tu dois avoir une habilitation de sécurité. Une habilitation de sécurité, c'est une enquête qui est faite sur toi. Dépendamment du niveau que t'as, ça peut être 10 à 20 ans sur ton passé, où il faut que tu mentionnes toutes les adresses où t'es resté, toutes les écoles où t'es allé, tous tes frères, tes sœurs, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, leur travail, où ils sont, tout. Là,
ton historique.
Ton historique. Et là, il y a une enquête qui est faite sur toi. Et ça, c'est à être renouvelé à tous les 5 ans. Ben, il était 3 ans en retard à la Défense. Il faisait trois ans qu'il attendait, qu'il aurait dû avoir eu cette information-là ou d'être renouvelé. Mm-hmm. Et s'ils avaient fait le renouvellement comme il se devait, ils auraient probablement découvert que, un, son statut matrimonial avait changé, maintenant il était divorcé, séparé, qu'il avait une allocation familiale à payer qu'il n'arrivait pas à payer, qu'il avait un problème de jeu, etc. Puis il aurait vu, OK, lui, il est un risque, là. Mm-hmm. On lui donnera pas son habilitation de sécurité. Ouais. Mais ils l'ont laissé là, puis comme il y avait des problèmes, puis il avait accès à des informations qu'il pouvait négocier, il en a profité. Mm-hmm. Ou a essayé d'en profiter.
Hey, encore une fois, ça a été un plaisir de te recevoir.
Hey, ça passe vite, hein?
Michel Junot Katsuya, un gros merci encore d'être venu, puis t'en reviendras.
N'importe quand, man.
C'était vraiment, vraiment apprécié. Y a-tu toi que t'aimerais plugger, que tu voudrais dire au monde, ou que si le monde veut te suivre?
Ben, non, pas rien de particulier. Suivez ce qui est en train de se dérouler sur les questions d'ingérence étrangère. Je dois aller témoigner devant un comité parlementaire comme expert témoin. À voir et à suivre. Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça?
OK. Bon, ben, merci beaucoup. Merci tout le monde. Thank you d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen. Yeah. Boom, 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 boom.